France Culture. France Culture, question du soir. Quentin l'a fait.
Alors que le plan de paix proposé par Donald Trump avant-hier à Benjamin Netanyahou attend la réponse du Hamas, les bombes s'abattent toujours sur Gaza. Les attaques qui accablent l'enclave depuis 2 ans laissent le monde témoin de l'horreur. Face aux morts, face aux atrocités, notre invitée Dominique Hédé voit un changement de nature même de la mort qui devient, dit-elle, liquide. Alors après des mois de silence, comment expliquer le basculement de la communauté internationale pour la défense de Gaza? Comment la catastrophe est-elle en train de changer notre rapport au monde et à la mort? Bonsoir Dominique Hédé.
Bonsoir, bonsoir à vous.
Vous êtes romancière et essayiste libanaise. Votre essai « La mort est en train de changer » vient de paraître aux éditions Les Liens qui libèrent. Et à mes côtés, Julien Bisson. Bonsoir Julien.
Bonsoir Quentin.
Vous êtes directeur des rédactions de l'hebdomadaire Le 1. Merci à vous et à vous deux d'être présents ce soir dans Question du soir.
C'est un plan adapté aux Palestiniens, au moins pour mettre fin au bain de sang à Gaza, pour stopper la destruction de la ville de Gaza et pour sauver ce qui peut encore l'être. Si l'on examine les détails, les enjeux sont nombreux, mais à ce stade, les Palestiniens n'ont pas d'autre choix.
Ce plan n'est pas dans l'intérêt du peuple palestinien, mais vise plutôt à offrir à Netanyahou la victoire qu'il n'a pas réussi à obtenir sur le terrain.
À mon avis, ce plan constitue une nouvelle forme de colonialisme. Tous les points présentés font partie d'un plan élaboré en 2020 par Tony Blair. Il s'agit d'une nouvelle colonisation de la Palestine sans reconnaissance d'un État palestinien.
Des réactions de Gazaoui face à l'annonce du plan de Donald Trump diffusé sur France 24, un plan en 20 points. C'est sous cette forme que les propositions du président américain pour la paix dans la bande de Gaza ont été diffusées. Un plan accepté par le gouvernement israélien, un plan désormais entre les mains du Hamas qui doit encore donner son accord, Dominique Hédé. Comment vous réagissez à ces réactions de Gazaoui?
Je les comprends, bien sûr. Je crois qu'il tombe sous le sens qu'il s'agit surtout d'un ultimatum. Un ultimatum qu'on pouvait attendre compte tenu du rapport de force. Il y a un principe de réalité qu'il faut reconnaître, qui est que une toute puissance militaire israélo-américaine a en effet écrasé, non pas le Hamas, mais écrasé la population palestinienne dans ses villes, dans ses infrastructures, dans ses universités, dans ses hôpitaux, dans tout ce qui lui permettait d'y mener une vie à peu près normale. Donc, en effet, c'est un fait accompli. J'espère que le Hamas va se soumettre. Pour quelle raison? Parce qu'il devient absolument urgentissime d'arrêter la destruction, la mort, de libérer les otages. Il y a là des urgences qui ne peuvent plus, mais vraiment plus attendre. Mais à vous dire vrai, le résultat, pas seulement pour les Palestiniens, mais pour l'ensemble de cette région, est désastreux. Mais nous le savions, ce n'est pas une surprise. La Cisjordanie n'a pas été citée dans le plan, ce qu'il appelle un plan, que moi j'appelle un ultimatum. Seul Gaza est cité, et Gaza est présenté comme une nouvelle principauté, me disait un Palestinien ce matin au téléphone. C'est comme ça qu'ils perçoivent cette nouvelle gestion mi-immobilière, d'exploitation des gaz qui sont au large de la côte. Enfin, c'est effectivement, le Palestinien le disait à l'instant, c'est une forme clarissime de colonialisme.
Julien Bisson.
Oui, vous dites, Dominique Hédé, que dans votre essai, que vous méfiez de l'optimisme et vous présentez le pessimisme comme la condition nécessaire de l'espoir. Est-ce que ça veut dire que face à ce plan de Donald Trump, il faut être modérément optimiste et même assumer une forme de pessimisme?
Optimiste, je ne dirais pas, vraiment. Je pense, là je vous parle comme quelqu'un qui vient de cette région et qui peut vous dire que le sentiment dominant depuis maintenant quelques années, et 2 ans en particulier, est celui d'une défaite cuisante qui n'est pas nommée, qui n'est pas dite, qui commence à vieillir et à très mal vieillir, parce qu'il est temps qu'on la reconnaisse. Donc moi, je prends dans la reconnaissance de la réalité, j'y puise là des motifs, non pas d'optimisme, mais des motifs d'avancée, de remise en mouvement. Je crois qu'il y a une nouvelle résistance à inventer face à une machine infernale, et que cette nouvelle forme de résistance ne peut plus être ce recommencement des luttes armées totalement inutiles, vaines et autodestructrices.
L'ouvrage que vous faites paraître aux éditions des Liens qui Libèrent est d'abord et avant tout une réflexion sur la mort, sur la façon dont ce qui se déroule en ce moment à Gaza va transformer le rapport collectif que nous avons à la mort et ce que la mort fait aux Gazaouis, à cet espace, à cette enclave. Pourquoi rapprochez-vous la mort de l'état liquide? Pourquoi la mort devient-elle quelque chose de liquide, selon vous?
Vous savez, ce n'est pas vraiment que je dis que la mort est en train de changer à Gaza. Je dis que la mort est en train de changer, qui est une formule absurde. Pourquoi? Parce que la mort et la vie sont évidemment indissociables, et donc la vie est en train de changer. C'est-à-dire que les intelligences artificielles et les moyens technologiques de la guerre, que j'ai pu moi-même expérimenter à Beyrouth, avec la présence, l'omniprésence des drones dans un ciel occupé en permanence par un bruit de moteur, ceci infiltre la vie. Et là, je parle d'une infiltration de la vie par la mort. Et porter cette figure-là à Gaza, où ce sont des pluies, des averses de bombes quotidiennes depuis 2 ans, causant des massacres quotidiens, imaginez cette prise en étau de la terre et du ciel. Il y a là quelque chose même d'une coupure avec l'imaginaire d'un au-delà qui peut être envisagé en dehors de la bêtise humaine. La bêtise humaine a envahi les cieux. Et, enfin, je dis la bêtise, on l'appelle l'intelligence aussi. Mais c'est là que je dis dans mon livre qu'il faut se méfier de cette intelligence qui est au fond ce qu'on appelle le IQ, le quotient intellectuel, qui se développe à toute allure à la surface de la planète, mais qui, à mes yeux, non seulement ne suffit pas pour produire de la pensée, mais souvent contribue à la détruire.
Cette mort liquide, c'est donc la mort qui arrive dans la sphère de la vie.
Comme l'humidité dans les murs d'une maison, la vie prend la mort comme un mur prend l'humidité. Et donc, vous avez dans cette partie du monde des gens qui ne savent plus très bien s'ils sont du domaine des vivants ou des morts. Cette confusion est inquiétante.
Julien Bisson.
Est-ce que cette infiltration, c'est quelque chose de radicalement nouveau, cette présence constante de la mort au sein même de la vie, ou est-ce que simplement nous l'avions oublié, nous ne voyions plus la mort que comme une extrémité, nous avions oublié cet état dans lequel vie et mort peuvent cohabiter?
Vous savez, il me semble que nous sommes plus nus. C'est-à-dire que dans ce séjour sur Terre, il y a toutes sortes de paravents ou de zones d'étanchéité entre la vie et la mort qui permettent aux vivants de se sentir bien vivants tant qu'ils ne sont pas morts, si je peux dire. Or, tous ces relais sont en train de tomber, les repères tombent. Qu'on parle du droit international, qu'on parle des institutions, qu'on parle des États, des pays qui n'ont plus les moyens de se défendre, qui n'ont plus d'autonomie, qui sont à la merci les uns des autres. Toute cette liquidité, je dirais, c'est pas pour rien que l'argent s'appelle aussi du liquide, toute cette domination de valeurs liquides est en train, en effet, de faire que les vies sont plus nues et donc beaucoup plus exposées à l'angoisse de la finitude. Et je crois qu'il y a, à la surface de la planète, pas seulement à Gaza, une angoisse métaphysique qui ne dit pas encore nommément son nom, mais que les politiques vont devoir très vite prendre en considération, parce que elle gagne même la jeunesse, et c'est inquiétant.
Je cite, Dominique Hédé, un extrait de votre ouvrage qui paraît aux éditions Les Liens qui Libèrent. Vous écrivez « Comment dire deux morts en même temps, la plus que lente et la plus que brutale? Comment donner à voir au milieu d'elle l'étendue des dégâts ?» Alors, deux questions en une. Pourquoi distinguer justement la mort brutale et la mort lente? Et pourquoi justement cette distinction peut parfois nous empêcher de voir le réel et de voir les dégâts?
La mort lente, c'est cette cette chose qui s'insinue dans la vie et qui la prive de ses ressorts, de ses instincts, de ce qu'on appelle la vitalité. Et c'est vrai que elle est celle-là, elle prend son temps. L'autre, la brutale, c'est celle qu'on a vue nous tomber dessus, même au Liban, à coups de bombe, parfois d'une tonne, de deux tonnes. On peut appeler ça une mort vraiment très rapide, très brutale, par rapport à l'autre, qui est celle, par exemple, des gens, je vous parlerai là du Liban, qui ont vécu une crise après l'autre, une guerre après l'autre, une explosion après l'autre, et qui sont donc dans un recommencement de la veille, jour après jour, sans perspective d'avenir, avec un fond de fatigue immense, qui est lui-même très lent, bien que, c'est pas que la fatigue est lente, c'est que la fatigue va imprimer de la lenteur et que la résistance est d'autant plus émouvante à voir, mais très affaiblie. Donc, oui, on a ces deux morts. On a la lente et on a la brutale. Et je pense que ce sentiment que nous vivons dans la région de manière presque tangible est malheureusement en train de s'installer à l'échelle de la planète, parce que les zones de décision sont maintenant entre les mains de personnages dont je parle dans ce livre et qu'on n'a pas de mal à nommer en disant Donald Trump ou Netanyahu ou Poutine, et que donc il y a un affaiblissement des pouvoirs, je dirais, à peu près raisonnable et fondé sur le droit, qui est très inquiétant et qui crée effectivement un sentiment assez général à la surface du globe, qui est le fameux « où va-t-on comme ça ?»
Julien Bisson, vous interrogez Dominique Hédé.
Cette question de la liquidité de la mort vient s'infiltrer dans de nombreux pans de notre vie. Pourquoi est-ce que vous dites que cette mort vient aussi toucher les mots ?
Ah, merci de poser la question, parce que justement, je me disais, il manque l'essentiel dans ce que je dis, et il est là. C'est que la langue, précisément, est infiltrée elle aussi par la mort, et je suis sûre que vous le vivez en tant que journaliste. Il y a des mots dont on est obligé de se servir, mais qui fonctionnent mal. Ce sont des outils qui fonctionnent de moins en moins bien. Pourquoi ? D'abord à cause du ressassement et à cause de l'écart entre ce qu'ils essayent de dire et ce que la réalité nous impose à toute allure, jour après jour. Et là, la vitesse de la réalité est foudroyante pour ce vieux langage qui a un besoin urgent de se revitaliser et peut-être même de créer de nouveaux mots. Parce que, vous savez, moi j'ai toujours hésité à utiliser par exemple le mot « humiliation » parce que nous l'avions trop utilisé, nous les Arabes. Mais maintenant nous en avons besoin, un besoin urgent. Comment faire pour que quand je dis ici à votre micro que tous ces peuples sont humiliés, comment faire pour que ce mot passe autrement qu'il y a 10 ou 20 ou 30 ans ? Parce que le degré de l'humiliation aujourd'hui de ces peuples, et du peuple palestinien en premier, a atteint un degré qui nous fait désirer un autre mot. On le cherche, je ne sais pas ce qu'il est. Mais c'est vous dire que les mots sont en panne par rapport à la vitesse de bolide de la réalité.
Que pensez-vous justement du mot, du terme « fatigué » selon moi ? La guerre à Gaza, est-ce que ce terme-là est également un mot qui a fait son temps ?
Fatigué, c'est beaucoup plus que fatigué.
C'est un mot qui ne va pas.
Non, qui ne va pas du tout. C'est un mot qui ne va pas du tout. Les gens sont exsangues. C'est-à-dire qu'ils sont, ils sont à chercher la vie. D'abord, pour manger, il faut trouver. Pour respirer, pour s'assurer que l'enfant qui est sorti 5 minutes n'est pas mort en chemin, on n'en est plus du tout là, on n'en est plus du tout à la fatigue. Et pendant que à New York ou ailleurs, les gouvernants se rencontrent et ficellent leur plan 1, 2, 3, 4, 5, 6, à Gaza, la situation est pire jour après jour.
Je parlais du mot de guerre, hein, plus que celui de fatigue.
Ah,
le terme de guerre, guerre à Gaza.
Ce n'était pas une guerre.
C'est un mot fatigué, ce terme-là de guerre.
Ce n'était pas une guerre. C'était pas une guerre. Une guerre, c'est deux partenaires. On avait, encore une fois, une armée toute puissante et une bande de gens armée, investie provisoirement d'un pouvoir politique dont j'espère personnellement qu'ils ne le garderont pas, mais je ne pense pas que c'est à Netanyahou et à Trump de décider ce que sera la représentation palestinienne. J'ai écouté ce matin un homme très intéressant qui est Daniel Levy, qui a été conseiller de Yossi Begin au moment des accords d'Oslo en 93. Et il dit, ce à quoi nous assistons avec ce plan, c'est à un énoncé d'un racisme total. Pourquoi ? Parce que non seulement on ne donne aux Palestiniens aucune prérogative, on décide tout pour eux, et avant de se débarrasser du Hamas, il faudrait peut-être savoir qu'est-ce qu'il représente dans la population, sonder cette population et travailler avec ce qui se passe dans les têtes. On a invisibilisé complètement les Palestiniens. Alors vous me direz, mais vous pouvez pas défendre le Hamas. Non, certainement pas. Mais pour moi, c'est un mot qui ne dit pas non plus grand-chose. Là encore, les mots sont en panne. Parce que entre ceux qui se sont précipités le 7 octobre pour commettre l'innommable, l'horreur absolue, entre ceux-là, que nous avons vu à l'œuvre, nous, au Liban, en Syrie et ailleurs, c'est-à-dire que le massacre, la culture morbide, désastreuse du massacre, elle a maintenant une cinquantaine d'années dans notre région. Donc, ce massacre que nous avons vécu avec effroi n'était malheureusement pas une affaire inédite. Dans le Hamas, vous avez des gens qui seront capables de donner à manger à un otage et de le traiter convenablement, et vous en aurez d'autres qui le martyriseront. Donc, on a là cette diversité qu'on est en train de tuer à coups de mots qui tuent non seulement les nuances, mais la différence entre vous et moi, entre chaque individu.
Julien Bisson.
Si les mots sont si moribonds, si en panne, comme vous le dites, pour décrire la réalité, pourquoi est-ce que ce qui s'est passé depuis deux ans a aussi été un affrontement sémantique, un affrontement sur des mots, les mots de génocide, les mots de nettoyage ethnique? Pourquoi ont-ils été si importants si ces mots-là même sont si fatigués, sont si difficiles?
Oui, vous avez raison, c'est une vraie question. Je crois que les mots sont aussi des boucliers quand on est mal défendu. Et quand la pensée pas défendu, c'est le cas aujourd'hui. La pensée est très largement dépassée par l'opinion. Et l'opinion, ça se fabrique en un quart d'heure. La pensée, ça demande parfois une vie. Donc, nous sommes dans le règne de l'opinion. Et pour avancer une opinion, il n'y a rien de tel qu'un mot bouclier. C'est comme ça que les extrêmes droites sont montées, parce que vous pouvez fabriquer là des divisions, des fractures, des haines à toute allure, à peu de frais. Et un mot plutôt que 10, c'est plus facile, mais c'est très dangereux.
Je voudrais que vous nous racontiez une histoire, Dominique Edé, celle de votre rencontre avec Vladimir Jankélévitch. Vous étiez alors une jeune femme, il avait 79 ans. Rapportez-nous le fruit de cette conversation.
Écoutez, je ne pourrais pas mot pour mot parce qu'elle est trop ancienne, mais je peux vous en dire l'atmosphère et l'émotion, parce que j'étais en effet très jeune pour ce vieux monsieur que j'admirais beaucoup par ses livres. J'étais en charge de défendre le je ne sais quoi et le presque rien, qui paraissait au seuil, et bien que philosophe très admiré de ses élèves, il était peu lu, peu vendu, comme beaucoup de grands auteurs en France. Et on a eu la chance d'avoir à ce moment-là un lancement de presse réussi, notamment une émission à Apostrophe. Et donc, Jankélévitch s'est trouvé tout d'un coup dans un monde auquel il n'avait pas tellement l'habitude. Et s'est noué, c'est vrai, un rapport très intéressant, parce que peu de temps après notre rencontre et son extrême amabilité, empathie, que n'avaient pas toujours des gens de ma génération, j'ai eu cette conversation sur l'invasion israélienne deux ans plus tard, de 1982. Il était attaché corps et âme à Israël. Il n'était pas question pour lui-même d'accepter d'écouter un musicien allemand ou de lire un chapitre de Nietzsche, tellement il avait mis une croix sur la culture allemande. C'est vous dire à quel point il avait rejeté tout ce qui avait eu trait au nazisme. Et que tout d'un coup, cette jeune Libanaise lui dit « Oui, mais vous savez, on a des bombes israéliennes qui tombent sur des immeubles de civils à Beyrouth. » Il était désemparé et il s'est installé un dialogue où je lui montrais des photos, je lui disais qui j'avais eu au téléphone, ce qui s'était passé. Et il a pris petit à petit la mesure dont il n'avait aucune idée quelques années auparavant, de ce rapport de force écrasant qu'Israël était en train d'imposer à ses voisins et qui risquait de devenir dangereux pour Israël lui-même. Et donc, au moment où, avec Pierre Vidal-Naquet et d'autres, une pétition de juifs français s'élevant contre l'invasion israélienne a été imprimée, je lui ai demandé, je lui ai dit, est-ce que vous la signeriez ? Et ce fut un grand moment d'émotion. Il l'a lu, il a réfléchi, et il a dit oui, je signe. Pour moi, ces toutes petites victoires sont immenses, parce que c'est avec ça que je vois qu'on peut faire avancer dans un moment où les haines, qu'elles soient anti-palestiniennes ou antisémites, abîment tellement les gens, la pensée, les têtes. C'est des petits, des vécus comme cela qui m'aident à supporter une atmosphère, notamment, je vais vous dire, ici en France, où les gens se sont réfugiés dans des discours et des équations lapidaires à l'emporte-pièce, où l'humanité est très en reste.
Julien Bisson.
Est-ce que ça veut dire, Dominique Hédé, que si les armes se taisent demain, les fractures, les failles que nous avons pu observer pendant 2 ans dans les débats, notamment en France, mais ailleurs, peuvent se résorber, qu'il y a encore la pensée peut reprendre son cours, les oppositions peuvent essayer de retrouver une forme de discours, de dialogue ?
On ne peut que l'espérer, ça va être très difficile. Ça va être très difficile et on va voir ce qui va se passer dans les jours qui viennent. Est-ce que, parce que nous n'avons pas tous les tenants et les aboutissants des coulisses diplomatiques, est-ce que Netanyahou va finir, comme il dirait, ou comme dirait Ben-Gvir, le boulot, c'est-à-dire continuer à massacrer ? Et à ce moment-là, la haine enflée dans des proportions qui ne seront plus gérables. Est-ce que Trump et son gendre Kouchner vont continuer dans leur lancée d'arrogance et d'obscénité? Est-ce que l'Europe va se réveiller? Est-ce qu'ici, en France, on va se dire, essayons de parler autrement qu'à coup de pétition où on se met en clan contre clan, etc. et où on peut accepter que l'histoire a un rôle à jouer dans la pensée? Parce que penser une situation en faisant fi de l'histoire, c'est tout simplement impossible. Donc, il y a toutes sortes de conditions à réunir. Elles sont loin d'être réunies, mais peut-être que d'avoir été si loin dans le cauchemar va réveiller chez la jeunesse une envie de dire et de parler autrement. Peut-être, je ne sais pas.
Une voix pour terminer cette conversation, celle d'un homme que vous avez bien connu, Édouard Saïd. Il était l'invité de France Culture le 18 avril 2002.
Ce que je vois comme solution, c'est pas la séparation de deux peuples. Mais au contraire, que nous sommes inextricablement liés entre tous les deux. 48, c'est pour les Israéliens le commencement de leur État, et pour nous, c'est la catastrophe. On ne peut pas éviter cette clash absolument radicale. Et ça, c'est la première chose. Et la deuxième chose, et nous sommes deux peuples dans une petite terre. Il n'y a pas de place, à mon avis, et surtout avec les implantations israéliennes, de séparer les deux peuples. Alors, il faut agir sur l'idée, si vous voulez, sur le programme d'un État, un seul État, et l'autodétermination pour deux peuples.
Édouard Saïd, universitaire palestino-états-unien, une réaction à ses propos, notamment, et cette solution qu'il entrevoyait de ne pas séparer les deux peuples, Dominique Hédé.
Oui, j'étais entièrement d'accord avec lui. Je suis heureuse que vous le donniez à entendre à vos auditeurs. Qu'est-ce qu'il aurait dit aujourd'hui? Je ne sais pas. Pour ma part, je crois que nous sommes à un moment où le présenter comme il le présente me convainc totalement, mais n'arrivera pas à convaincre sur le terrain de part et d'autre, tant la souffrance a été loin. Mais à vous dire vrai, et pour être tout à fait honnête, je pense qu'au-delà des deux États tels qu'on peut encore y songer un peu, à très long terme, et au niveau même de la région. C'est seulement dans l'état d'esprit qui est le sien, celui de société vraiment mélangée, où les données confessionnelles s'effaceront derrière les données citoyennes. C'est seulement comme cela que de la civilisation et de la culture reprendront le dessus.
Un immense merci, Dominique Hédé. Je rappelle le titre de votre ouvrage, « La mort est en train de changer », qui vient de paraître aux éditions des Liens qui libèrent. Et merci également Julien Bisson, directeur des rédactions de l'hebdomadaire Le 1. Le 1, à ce propos, qu'est-ce que l'on y trouve cette semaine ?
Eh bien, on parle de la mort également, mais d'une façon très différente, puisque nous parlons de transhumanisme, d'IA et de médecine, demain tous immortels. Quels sont les fantasmes de la science pour mettre fin à la mort ?
Jetez-vous donc sur Le 1. Merci encore une fois à vous deux, et merci à celles et ceux qui ont fait cette émission, Roxane Poulain, Bertie Bourdon, Rodi Eken à la réalisation. C'était François Richer et Dalia ce soir à la technique.